nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le dimanche 29 mai, il est 18h, bienvenue dans Cours d'honneur. Bienvenue dans le magazine culturel de la Sorbonne. Une fois par mois, les étudiants de la plus vieille fac de France prennent place dans le studio de Radio Campus Paris pour vous raconter les meilleures histoires qui parcourent les couloirs de Sorbonne Université. C'est dimanche soir et pour pas mal d'étudiants demain, pas de stress, pas de métro, pas de morosité. Autre fait étrange, les parcs se remplissent, les stocks de bière se vident et sur les quais, on entend le bing caractéristique d'une bonne pétanque. Camarades, je vous l'annonce, les vacances sont presque là. Oui, presque, on va pas trop fanfaronner pour celles et ceux qui ont encore un dernier partiel, un dernier mémoire ou un dernier oral. Que tu sois dans la team pétanque ou dans la team partielle, dans ce studio, on a tout préparé pour t'aider à te détendre. Alors du fond de l'amphi jusqu'au sommet des chambres de Bonne, vous êtes les bienvenus dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Salut, moi c'est Blanche, aujourd'hui je te guide dans super moments que t'ont préparé les bénévoles de RSU, et encore une fois, pour passer un bon moment, c'est toujours mieux d'être avec des bons copains. Dans la Dream Team de ce soir, nous avons donc le retour d'une de nos spécialistes cinéma avec Zoé.
Salut.
Salut, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Du Truman Show.
Oh yes. Nous avons aussi avec nous celui dont on ne sait jamais s'il nous amène en boîte ou en manif, c'est Pierre.
Salut. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de droit d'auteur.
Dans un autre thème, aussi à l'aise pour nous parler de musique classique que pour se déhancher sur le dance floor à 4h du mat, aujourd'hui Clémence est de retour.
Salut, salut. Je suis trop contente d'être là.
Et tu nous parles de quoi?
De Gustav Mahler.
Oh, ça va être autre chose ça. Et puis on avait craint qu'il se soit dissous à force de passer tant de temps sous la douche, mais c'est aussi le retour de Nathan.
Eh oui, bonjour, bonsoir.
Et tu nous parles de quoi toi?
Feur. Qu'est-ce que je vous parle de quoi faire? Non, parce qu'aujourd'hui je vous parle de choses que j'ai pensées ce matin sous la douche et avec un petit peu de jeu de mots que je me suis fait à moi-même. Oui, ça m'arrive.
Ok, on attend ça avec impatience. Et puis quand Clémence danse à 4h du mat, celui-là est en train d'envoyer des mails pour fabriquer cette émission, c'est Thomas.
Salut Clémence, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit qu'on connaît tous par cœur, où on s'est autant cassé le cul que cassé la tête. Je vous parle de l'amphi Richelieu.
Et pour finir, chef de notre pôle communication, grande prêtresse de notre compte Insta, c'est Lisa qui nous rejoint également.
Salut.
Mais on change pas les bonnes habitudes, et pour commencer, c'est moi qui prends la parole.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Le mercredi 13 avril, vers 13h30, je suis comme tous les mercredis depuis le début de l'année en TD d'histoire moderne. Sauf que là, contrairement à tous les autres mercredis, à 13h30, au lieu d'entendre juste la voix de ma prof, j'entends aussi une rumeur qui gronde et qui monte et un gros bruit et des centaines de pas et des gens qui tapent sur les tables et l'international qui résonne. Alors là, je vous le cache pas, les facteurs d'ascension sociale des 1353 généraux d'Empire sous Napoléon, je suivais plus trop. Dès que le cours se finit, je file voir là d'où le bruit provient. L'amphi Houri, juste à côté, était plein à craquer. Des étudiants organisaient une AG, c'était le début de l'occupation de la Sorbonne. Alors autant vous prévenir tout de suite, je ne vais pas faire un récit détaillé de tout ce qui s'est passé pendant deux jours, je ne vais pas reprendre à 100% le manifeste des occupants, et encore moins nous faire passer pour des petits concasseurs comme la plupart des commentateurs. Non, moi ce que je propose, c'est à froid, un mois plus tard, une lecture de ce qui s'est passé ce jour, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, et comment ça a tout changé pour certains d'entre nous. Je vous rappelle le contexte. Le 13 avril, on est trois jours après le premier tour de l'élection présidentielle, second tour Macron-Le Pen, et on est pas mal à paniquer. L'idée de base, c'était de se rassembler entre étudiants pour discuter de comment s'organiser pour le prochain quinquennat. Parce que avec d'un côté le pape du libéralisme et de la casse des services publics, notamment de l'université, et de l'autre la grande prêtresse de l'exclusion sous toutes ses formes, avec dans son camp le racisme, l'homophobie, l'islamophobie, la misogynie, la haine de classe avérée ou soupçonnée, bref, entre Macron et Le Pen, on a un peu flippé. Il fallait se retrouver parce que la situation des étudiants n'allait s'améliorer avec aucun de ses choix. Le syndicat solidaire étudiant appelle donc à une AG pour le mercredi à 13h dans la cour d'honneur de la Sorbonne, comme notre émission. Évidemment, les entrées de l'université sont filtrées dès 8h. L'objectif de la présidence était d'empêcher l'AG. À 13h30, l'entrée a été forcée et j'entendais les occupants depuis mon cours d'histoire moderne. Dans l'amphi Houri, on s'est vite demandé comment s'organiser. Après des discussions, on vote une occupation fermée, c'est-à-dire qu'on se laisse le droit de décider qui rentre et on définit nos besoins urgents. L'AG se divise alors en commissions, un service d'ordre, une pour la communication, une pour la cuisine, le ménage, une infirmerie, une commission contre les violences sexistes et sexuelles, et une commission qui gère les portes, la commission entrée-sortie. Et puis, on a aussi une pièce dédiée à des discussions politiques, une autre pour l'infirmerie et un espace de cantine. Entre 18h et 22h, toute l'occupation s'organise et c'est une petite cité qui se crée dans la Sorbonne. Bon, ça, c'est ce que j'ai vu à l'intérieur de la fac. Le soir, je suis partie, donc je vais parler de ce qui se passait aux alentours de la Sorbonne le lendemain, jeudi 14 avril. C'est simple. J'étais venue avec de quoi ravitailler l'intérieur. De 11h à minuit, je me suis baladée avec de la nourriture, de l'apro pour l'infirmerie et du matos de ménage. Dès 11h, impossible d'accéder à la Sorbonne. Pas à cause des étudiants, mais à cause des forces de l'ordre qui bloquent de l'extérieur toutes les entrées. Peu à peu, on se fait pousser et ils installent des barrières autour de la fac. L'après-midi, un policier me dit qu'ils ont reçu l'ordre d'empêcher tout ravitaillement. J'ai l'impression de vivre une sorte de siège. Sur la place de la Sorbonne où les manifestants ont été repoussés, on discute, on montre notre soutien à ceux de l'intérieur, on réclame qu'on nous laisse passer. Vers 14h, le jeudi, sur la place de la Sorbonne, les forces de l'ordre envoient les premières lacrymos sur les étudiants pour disperser le mouvement, mais on reste, les camarades sont toujours à l'intérieur. À 18h, rassemblement devant le Panthéon en soutien aux étudiants réfugiés. Parce que, fun fact, on accueille à bras ouverts les étudiants ukrainiens qui viennent se réfugier en France, ce qui est vraiment très bien, mais l'inscription des réfugiés en fac se complique quand la couleur de leur peau se fonce. Bref, à ce moment-là, après plus de 24 heures d'occupation, les camarades de l'intérieur de la Sorbonne votent une évacuation. À l'extérieur, on décide alors de bouger devant la sortie de la fac pour accueillir ceux de l'intérieur. Notre idée ne plaît pas aux forces de l'ordre qui, pour la deuxième fois, lancent les gaz. On se décale, on reprend la rue Soufflot, des rangs de CRS charge et gaz. On remonte sur la place du Panthéon, sur notre gauche, un rang de CRS avance et gaz. On fait le tour de la place et derrière, la brave M bloque et gaz. On retourne sur la place du Panthéon, on n'est plus qu'entre 50 et 100, presque autant que les forces de l'ordre qui maintenant nous prennent en étau, il n'y a plus aucune issue possible et ils gazent. Vous avez déjà vécu une nasse ? Moi, c'était ma première. Le gaz ne fait pas que piquer, il brûle, et pas que les yeux, mais aussi la bouche et la peau, de partout. Leur but, c'est de nous faire peur, de nous dissuader, de retourner manifester. Et ça, c'est pas un truc que j'imagine, on nous l'a dit. Parce que dans la nasse, j'étais pas seule. J'étais avec Pierre, qui est là, et avec Olga, dont vous connaissez la voix. Et quand j'ai voulu sortir, parce que j'avais trop peur, j'ai montré mes jambes pleines de cicatrices et j'ai dit « Laissez-moi sortir, je suis handicapée », ce qui est vrai. Et on m'a dit
« Si vous êtes handicapée, il ne faut pas venir manifester, madame. »
Olga est venue avec moi. Ils n'ont pas laissé Pierre passer quand il a demandé à sortir parce que, comme nous, il avait peur. On lui a dit
« Monsieur, si vous avez peur, il ne faut pas venir manifester. »
Au final, on est sortis et à minuit, les derniers occupants aussi. Parce que bien sûr, quand à 18h, ils ont tous voulu sortir, les flics ont coupé leur ligne en deux et poussé ceux de l'arrière dans la fac et gazé à l'intérieur de la fac pour refermer les portes sur eux, une quarantaine d'étudiants. Bon, en vous racontant tout ça, je suis encore émue. Pendant 4 jours après l'occup, quand je fermais les yeux, je voyais des charges de CRS. Mais ce qui a été retenu, selon les mots d'un prof que pourtant j'adore, c'est que des gauchistes ont saccagé la Sorbonne. On ne peut pas le nier, il y a eu des dégradations matérielles considérables, des murs tagués, des portes dégondées, etc. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on n'a que ça à retenir ? Pourquoi on n'a pas tenu plus longtemps ? Déjà, je pense que le fonctionnement n'était pas assez rodé. Dès le début, l'AG s'est déclarée apartisane et en dehors des partis et des syndicats, alors même que le syndicat solidaire étudiant l'avait convoqué. L'AG était donc présidée par des gens qui décidaient que c'était leur rôle, et la prise de notes, la tenue de l'ordre du jour et la distribution de la parole n'ont pas toujours été efficaces. Il y a dans les syndicats un savoir-faire militant dont nous avons besoin, parce que l'occupation de la Sorbonne a aussi permis cela, l'arrivée dans les luttes politiques de beaucoup de primo-militants. Mais militer, c'est comme tout, ça s'apprend. Et même si on peut mettre en cause le fonctionnement des partis, des syndicats ou d'autres organisations, on a besoin d'eux pour nous former et pour être efficaces. Il n'y a pas qu'un manque de formation politique. Je pense aussi que les dégradations les plus sévères peuvent être mises sur le dos d'une bonne vieille tradition masculine d'aller tout péter pour montrer qu'on a les plus grosses. Parce que si taguer des slogans sur les murs nous permet de nous réapproprier un espace, de politiser notre lieu d'étude, balancer des chaises et des ordis par les fenêtres, je ne vois pas à quel objectif politique ça répond. D'autant plus que le savoir émancipe, on a donc tout intérêt à préserver la fonctionnalité des locaux de nos facs. On peut étudier dans des lieux tagués, sans table, sans chaises, sans matos informatiques, c'est une autre affaire. Mais maintenant, un mois plus tard, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on continue à essayer d'écrire et analyser tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. On cherche tout ce qu'on peut améliorer et comment on peut le faire. On se forme, on lit, on discute, on écoute, on n'abandonne pas et on s'implique dans la vie politique de sa fac et de son quartier. Au début, je demandais ce que ces 2 jours auront changé. Pour certains, c'est l'entrée aux politiques, pour d'autres, la découverte d'autres modes de fonctionnement. Moi, ça m'a un peu redonné espoir, et puis contre la violence des flics, je suis devenue street medic.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Jusqu'à quand la vague de chaleur va-t-elle durer ? Avec l'anticyclone qui bloque ces terres chaudes au-dessus de la France, on devrait battre des records de température pour le mois de mai. Localement, les prévisionnistes s'attendent à ce que le mercure atteigne les 35 degrés dans le sud-ouest. Épisode de chaleur exceptionnel qui est une source d'inquiétude pour les Parisiens, mise en onde par Thomas.
Il fait très chaud.
Qu'est-ce qui fait chaud ?
Là, c'est vrai que c'est inquiétant.
Il fait chaud, trop chaud pour moi.
Ah, ça fait un peu de bien de pouvoir se mettre au soleil, profiter. C'est un vrai régal et un vrai bain de jouvence.
Paris consume les Parisiens. Les paris sont lancés pour le prochain orage. Pourvu qu'ils viennent, pourvu qu'ils viennent. Arroser les Parisiennes.
Là, on a l'impression d'être en août, en fait, en juillet-août. Ça pourrait m'amener à déménager peut-être soit plus dans le nord, soit plus près de l'océan ou de la mer, où il y a un peu plus de vent, donc on ressent moins ces grosses chaleurs. On n'a pas l'impression que c'est un sujet très important de nos jours pour des grandes personnes comme les politiques, alors que pourtant, bah, on le voit bien, nous, on le ressent aujourd'hui, que ce soit ici ou même dans le nord, où vous n'avez pas l'habitude d'avoir ces températures-là.
Que faire ? Pour mes petits-enfants, je suis quand même inquiète parce que je me dis que, pas que ça, mais que beaucoup de choses seront très difficiles à supporter.
Pour le bonheur des Parisiens. Paris tropical, Paris brûlant, Paris trop sale.
Il y a du monde au marché, il y a même du monde à l'église le dimanche quand il fait beau, vous voyez, donc c'est bien aussi.
Quand Paris brûle, on se prend à
Bon, on l'a entendu, il fait chaud, je pense que dans ce studio, on l'a aussi ressenti, on a tous sorti nos tenues d'été, et cette fois, on n'a pas oublié nos bouteilles d'eau.
Ouais, vous avez même laissé la fenêtre ouverte.
J'avoue, on a laissé la fenêtre ouverte, mais ça commence à être pas trop supportable, et pour autant, on enregistre mi-mai.
Qui est-ce qui habite dans une chambre de bonne sous les toits ici, et qui a bien chaud depuis le début de la semaine, c'est les après-midi de révision ?
Alors, c'est pas sous les toits, mais j'ai la chance inouïe d'être exposée toute la journée avec le soleil qui éblouit l'ordinateur. Et je mets même de la crème solaire sur mon bras.
Voilà. Clémence, bronzage à domicile, non ? Vous supportez la chaleur ces derniers jours ? C'est vrai que ça est arrivé très brutalement.
Bah moi, j'habite au rez-de-chaussée, du coup, j'ai un peu l'impression d'être dans une cave isolée. En fait, mon appartement est génial parce que l'hiver, bon, bah, t'as un peu froid. Mais l'été, bah, c'est un bon refuge, mine de rien.
Ouais, bonne nouvelle, mais après je pense que le truc, si là on n'est pas tous à vivre dans des chambres de bonne et à devoir supporter ça au quotidien, enfin, ce qui ressortait je trouve dans ces micro-trottoirs, c'est des gens qui s'inquiètent pour eux-mêmes et pour leur propre confort. Il y en a une qui parlait de déménager, mais la vieille dame, enfin la personne âgée avait quand même plutôt raison de s'inquiéter pour le futur, parce que en fait c'est pas juste qu'il fait chaud, il y a un problème derrière.
Pierre. Effectivement, là on voit que c'est les premiers effets de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, mais qui en fait est une crise écologique. Donc ça va pas seulement être des questions de réchauffement, il va y avoir aussi des vagues de froid, des vagues comme on a pu en voir dans les vignes, notamment en Bourgogne, et il va y avoir des inondations. Donc en fait, ça y est, la crise climatique est là, celle dont on parle depuis les années 50 quand même, et à propos de laquelle aucun politique n'a pris ses responsabilités. Donc si vous voulez que les choses est une chance de s'améliorer, parce qu'on ne sait pas si elles vont s'améliorer.
Voter aux législatives.
Exactement.
C'est vrai que c'est le 12 et le 19 juin prochain qu'on devra voter aux législatives, sachant que la première ministre qui vient d'être nommée à Matignon, Elisabeth Borne, a été ministre de l'Environnement quand le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est fait condamner pour inaction climatique.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Certes, elle était ministre de l'Environnement, mais c'est aussi celle qui a le plus épuré ce ministère avec beaucoup, beaucoup de renvois, plus que dans les autres. Donc, y a...
Avec la conférence citoyenne aussi, qui avait été vidée de son sens à l'époque, où on avait fait appel au bon sens de tout un chacun pour travailler sur des mesures concrètes à prendre. Et du coup, autour de cette table, est-ce que vous avez pris des décisions concrètes ? Est-ce que certains ont arrêté peut-être de manger de la viande ? Revendu leur voiture. J'imagine que Nathan, avec sa Cadillac qui polluait sur le périph', là, t'as arrêté de faire trois fois le tour avant de rentrer chez toi.
Alors, j'aurais bien aimé avoir une Cadillac, mais c'est vrai que, étant clairement un lézard de base, j'adore le soleil, j'adore rester au soleil pendant des heures, même si j'ai des traces de bronzage absolument atroces. Là, ce n'est plus supportable. Vraiment, je ne peux plus, je suis en train de mourir. Je remplis mes bouteilles d'eau en même temps avec ma transpiration.
C'est répugnant. Non, mais c'est vrai que c'est arrivé d'un seul coup. Le mois de mai a été particulièrement chaud. Zoé, tu veux dire quelque chose ?
Non, je voulais juste dire qu'il ne faut pas oublier que peut-être que nous, on est touchés dans notre petit quotidien, etc. Mais il ne faut pas oublier que ça va créer des vagues de migration monstres. Et donc, tous ceux qui sont en train de se plaindre des Syriens, des machins qui viennent parce qu'il y a la guerre chez eux, bah, ils vont avoir un sacré... Enfin, il va y avoir... beaucoup plus de vagues de migration, voilà.
Ouais, mais il y a déjà des migrants climatiques, parce que tout ça, ça va aussi avec la montée des eaux et donc des petites îles où les gens ne peuvent plus habiter et même les zones de désert s'étendent de plus en plus. Donc on a. Puis j'ai appris aussi un autre truc, c'est que plus il fait chaud, moins la terre est en capacité d'absorber l'eau. Donc si on a un sol extrêmement sec et que dessus on a un gros orage, il y a un stade où il deviendra tellement sec qu'il pourra même plus absorber l'eau et ça va juste faire genre des inondations parce que l'eau va ruisseler dessus, va acquérir une force incroyable et tout détruire sur son passage. Donc on est aussi arrivé à un stade où il faut trouver d'un point de vue politique des manières de s'adapter parce que c'est mignon de le faire à titre individuel et c'est très bien d'avoir des actions individuelles. Par exemple, c'est un truc d'hyper privilégié, mais je prends plus l'avion. Et donc, il y a plein... ma cousine se marie dans un endroit où il faudra y aller en avion. Bah, je vais pour le mariage de ma cousine.
J'y vais en bateau, à la rame.
Ah non, mais j'y vais pas. En barque. J'y vais juste pas, c'est plus simple. ou juste, bah, j'aime bien m'acheter des fringues, mais en fait, ça participe à la pollution et à tout ce cycle.
Du coup, tu t'habilles plus.
Mais
du coup, je me dis, de toute façon, on n'aura plus besoin de s'habiller si on a trop chaud.
C'est clair.
Non, mais... C'est vrai que là, on entendait une de nos interlocutrices dans le micro-trottoir qui disait « voilà, moi je vais déménager, etc. » Et tu parlais de son petit confort, parce qu'on voit que nous, on supporte plus les 35 degrés, mais ça fait bientôt un mois qu'il fait plus de 45 degrés en Inde, qu'on a atteint les 50 degrés dans certaines zones. Je ne sais pas si vous avez vu les cartes.
Surtout que c'est surpeuplé là-haut.
Ouais.
C'est surpeuplé, et sur les cartes des températures, il y a des endroits où c'est tellement chaud que la couleur noire ne représente plus suffisamment bien les températures, que du coup ça devient blanc. Pour représenter, vous savez, les cartographes, ouais. Ils font, voilà, les climatologues, ils font ces cartes-là. Donc il y a des endroits où c'est rouge, c'est violet, c'est noir en fonction de l'intensité de la chaleur. Et des endroits, ils ont même plus de couleur, ils sont obligés de mettre blanc. Tant ça atteint des niveaux, ça atteint les 51 degrés. Et là, pour le coup, il y a des photos, on voit les gens qui dorment en pleine rue, à la recherche de la moindre fraîcheur. Et ça fait bientôt un mois que ça dure parce que c'est exceptionnel. Ils attendent les moussons qui vont participer à faire tomber le mercure. Mais pour autant, voilà, nous, on est effectivement un peu privilégiés pour l'instant. Donc toi, tu arrêtes de prendre de l'avion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient s'engager là cette année à prendre une bonne résolution pour cesser les émissions de gaz à effet de serre ?
Alors moi, je voulais peut-être souligner le fait que les bonnes résolutions individuelles, c'est une bonne chose, effectivement, mais que le problème est systémique, parce qu'en fait, il y a vraiment des responsables qui ont à la fois des moyens financiers, humains et matériaux, et scientifiques surtout,
et politiques,
qui pourraient faire quelque chose. Et il y a une espèce de vague dans les médias de personnalités politiques qui vont expliquer que les écolos ne sont pas scientifiques, qu'ils réfutent la science, le progrès, alors qu'en fait, les scientifiques alertent sur ce qui est en train d'arriver depuis quand même 70 ans.
Je crois que Zoé vient d'avoir un éclair de génie.
Ouais,
elle a trouvé la solution. C'est elle la ministre de l'Environnement, en fait, demain.
On en parle du sujet du bac économique là, qui est tombé, où les questions étaient clairement orientées. Est-ce que le réchauffement climatique... Enfin, est-ce que les innovations technologiques pourraient endiguer le réchauffement climatique ?
Oui, c'était un truc comme ça.
Est-ce qu'on se fout pas un petit peu de la gueule du monde, quand même ?
C'était n'importe quoi. J'ai vu le truc, je me suis dit, mais on dirait que le gouvernement essaye de faire valider sa politique et ses trucs politiques par les futurs votants. Et enfin, c'est une.
Mais ça s'appelle de la propagande à un moment, j'ai envie de dire. Enfin.
Ah, mais l'éducation nationale, c'est une forme de dressage quelque part. Hein. C'est,
non, mais bien sûr, après.
Il y a des philosophes qui ont étudié ça très en fond.
Calmons-nous.
Foucault peut-être.
Foucault par exemple. Adorno peut-être.
Ça a commencé à la Révolution. Oui.
Non, mais si on reste sérieux deux petites secondes. La théorie du complot la plus plausible, c'est que c'est la Russie qui a envoyé tout ça pour qu'on déménage en Russie, pour qu'on ait moins chaud.
Et qu'on achète leur gaz.
Exactement.
Et qu'on achète leur gaz purée.
Et en plus, le réchauffement climatique leur sert, vu que tous leurs nappes qui sont congelées dans le nord de la Russie, bah, ça va fondre et ça va donner accès à des nouvelles ressources. Donc on est content, en fait.
Je précise ici qu'on est en train de faire une blague, si jamais il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route et qui pensent vraiment qu'on est en train de développer ce type d'idée. Non, on est particulièrement cynique.
Non, Vladimir, je le sais.
Non, mais c'est vrai que même en Sibérie, on a atteint des records de température avec une différence de 40 degrés habituellement, où il fait moins 20 et où il faisait 20 degrés cet hiver, et ça a provoqué effectivement des fontes de neige assez importantes. Moi, ma bonne résolution, c'est que j'ai décidé que je n'utiliserai plus jamais la climatisation.
Good.
Je passerai mon temps à mettre des ventilateurs et je trouve que c'est très bien et je pense que c'est une bonne politique là-dessus et je vais mener le combat. Votez pour moi en 2027.
Si tu te présentes, on verra.
Pour une France qui ventile.
Thomas, le mec qui brasse le plus de vent.
On va installer des éoliennes dans le studio.
Exactement. Bon, on continue sur ces bonnes paroles en écoutant justement un ancien morceau d'un groupe canadien. À mon avis, il fait plus si froid que ça chez eux. Et c'est Arcade Fire qui vient de sortir un nouvel album, mais c'est un des morceaux qui date d'avant. C'est Sprawl 2 de Arcade Fire dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Fire dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Pour l'instant, je vous ai reparlé de l'occupation de la Sorbonne le mois dernier et on a discuté de la chaleur qui nous tombe dessus actuellement. Et maintenant, place à la croisette et aux paillettes.
Gentlemen, you have my curiosity, but now you have my attention.
Le mardi 17 mai avait lieu la cérémonie d'ouverture de la 75e édition du Festival de Cannes. Et cette année, le Truman Show est à l'honneur. Sur l'affiche officielle, une projection sur la plage pour le soir de l'ouverture. Le choix est évidemment politique après une 73e pseudo-édition virtuelle et une 64e décalée à l'été suite à la crise du Covid, qui a évidemment suscité des réflexions autour de la dissimulation de masse et de la circulation de la vérité, dans un sens comme dans l'autre, bien évidemment. Le film a surtout été restauré et ressort en salle au mois de juin avec une avant-première à l'UGC Normandie le 5. Zoé va donc nous en parler.
Truman, vrai humain parmi des humains joint des vrais humains de fiction, rêve d'échapper au scénario parfaitement orchestré de sa vie quotidienne. Il rêve à son vrai amour, dont il tente de reconstituer le visage à la manière de Zeuxis, peintre grec qui voulait peindre Vénus à partir des traits des plus belles femmes de Crotone. Mais à l'inverse de Zeuxis, il ne tente pas de recréer une icône à partir de femmes réelles. Il veut retrouver la singularité de l'être aimé à partir des traits des icônes de la publicité. Car la publicité est devenue réelle dans cet environnement faux. Il ne faut alors pas se laisser prendre à l'immobilisme de ces images figées pour maintenir l'illusion de la perfection. Il faut se mettre en mouvement, fuir et partir à la recherche des failles du système. La lumière se fait dans l'esprit de Truman, un projecteur tombe du ciel. Le ciel tombe sur la tête de Truman, il décide alors de s'emparer de l'obscurité pour s'échapper vers d'autres cieux. Car ne pas être vu, c'est pouvoir. Chose étrange pour un homme qui n'existe que parce qu'il est vu. Mais est-on vraiment vu lorsque nos faits et gestes sont mis en scène? Échapper à soi-même, c'est alors provoquer l'imprévu en duel. Et quelle aventure! Voici l'air ferme à l'horizon. Baudrillard n'écrivait-il pas sur Los Angeles, sur cette ville d'une étendue fabuleuse, mais sans espace, sans dimension, cette ville qui n'est plus elle-même qu'un immense scénario et un travelling perpétuel? Le dôme, la demi-terre qui abrite la ville du Truman Show, se trouve dans la ville du cinéma. Images, spectateurs, consommation, pour les saisir, Peter Weir a un beau coup de pinceau. Et au cas où Truman ne les revoyait pas, bon après-midi et bonne soirée.
Crème sonore, qui veut de la crème sonore à volonté. Allez, allez, venez choper la crème sonore.
En ce beau printemps, en cette période partielle, Pierre veut nous parler de droit de la musique, de plagiat, et promis, c'est très cool.
Auditrice, auditeur, cette chanson que vous venez d'entendre, que j'adore, que vous adorez, est le fruit d'un travail immoral, d'un processus créatif honteux que chacun devrait connaître, dont la laideur n'a d'égal que le succès, et ajoutons même que si une composition devait être la bande sonore du pire des voleurs, ce serait bien celle-ci. Mesdames et messieurs, vous avez eu dans les oreilles un authentique plagiat. Les fameuses nappes sonores qui ouvrent le morceau et lui donnent toute sa saveur, à tourner en boucle comme la parfaite répétition de la plus parfaite suite d'accords, sont en réalité un sample, celui d'une version orchestrale du morceau « The Last Time » des Rolling Stones. La ficelle est un peu grosse, me direz-vous. Eh bien, elle est tellement grosse que les auteurs de Bittersweet Symphony avaient payé pour utiliser le sample. Mais l'ayant droit, c'est-à-dire le propriétaire des droits d'auteur, a finalement décidé que le sample était trop utilisé dans la composition et surtout, la chanson était un énorme succès. Comble de l'ironie, cet ayant droit avait racheté les chansons des Rolling Stones derrière leur dos pour profiter de tout l'argent qui en découlait. Ce même ayant droit qui a donc intenté un procès pour plagiat au groupe The Verve et ainsi gagné les droits d'auteur de Bittersweet Symphony. Car, comme souvent, l'accusation pour plagiat reposait moins sur une considération artistique que sur un féroce appât du gain. Dans l'industrie de la musique, tout part des droits d'auteur. On va essayer de reprendre ça calmement, très calmement. Lorsqu'un artiste, auteur-compositeur, accouche d'une œuvre, celle-ci est protégée au titre du droit d'auteur. Grossièrement, cela permet à l'artiste d'être rémunéré pour toute utilisation de celle-ci. Pour gagner de l'argent avec un enregistrement, l'artiste cède une partie de ses droits, ce qui permet de la reproduction de la musique sur disque ou en fichier numérique, en vue de sa distribution massive. Je ne veux noyer personne, c'est donc très simplifié. Une des deux conditions pour être protégé par le droit d'auteur, c'est que l'œuvre soit originale. La Cour de justice de l'Union européenne définit cette originalité comme le reflet de la personnalité de l'auteur qui se manifeste par les choix libres et créatifs de celui-ci. C'est très vague et large, mais c'est ce sur quoi reposent les accusations de plagiat. Le problème en musique, c'est qu'il faut définir précisément les éléments qui permettent d'identifier une œuvre, la mélodie, le rythme, l'harmonie, les timbres, la forme, etc. Et le deuxième problème, c'est qu'en musique, on est toujours inspiré par quelqu'un. Led Zeppelin, par exemple, se sont très largement inspirés d'autres artistes pour leurs compositions. Vous me direz donc, le plagiat c'est du vol, c'est honteux de copier le travail d'un autre. Mais on parle de quel travail ? Dans le cas de Led Zeppelin, c'est un groupe extrêmement doué, avec des capacités musicales hors normes, qui ont passé des heures sur scène, en studio ou juste avec leurs instruments à répéter. Effectivement, beaucoup de leurs morceaux ressemblent fortement à des compositions antérieures. Mais à l'époque, tout le monde faisait ça. Le blues ou la folk était un patrimoine libre dans lequel tout le monde piochait. Et je mets au défi quiconque de m'affirmer que l'identité de Led Zeppelin n'est pas clairement reconnaissable. le vrai problème dans les affaires de plagiat, le nerf de la guerre juridique, c'est la thune. Personne n'aurait poursuivi Led Zeppelin en justice si ça n'avait pas été le groupe le plus populaire de son époque. Alors oui, bien sûr, le fait qu'ils aient pillé le répertoire noir américain en tant que blanc européen passe très mal. Mais le problème se situe au niveau supérieur. Les maisons de disques, fonctionnant dans un système raciste et le renforçant, ne font que pousser à la ségrégation musicale et à la récupération en ostracisant une des franges les plus créatives des musiques populaires. Mais on ne parle pas du petit paysan noir dans sa campagne qui demande des droits d'auteur pour son blues de 1910. On parle de gros sous et de gens qui ont les moyens pour se payer des avocats. La musique, c'est d'abord une imitation. On reproduit ce que l'on entend, on copie ce qui retient notre attention. Nous sommes des éponges sensitives. Qui aurait comme idée de breveter les mots que l'on entend? De faire sa propriété le langage et d'en faire payer l'usage? Elon Musk, ok. Mais le non-sens de la propriété intellectuelle tient là. C'est comme l'enfant qui, fier de son étron, vient le montrer au monde entier et assurer haut et fort que c'est bien le sien, sa production. Si la valeur des artistes réside dans leur capacité à se faire propriétaire et rentier, alors c'est de la merde. Vous aurez évidemment reconnu Gainsbourg, mais avez-vous entendu la citation d'un thème de Dvorak de la Symphonie du Nouveau Monde? Ce processus musical, on l'appelle l'interpolation. L'utilisation d'un thème mélodique qui a fait ses preuves, mais en le plaçant dans un nouveau contexte musical. Aujourd'hui, ce procédé fait marcher. Les pop stars ne cessent de citer, de copier les tubes du passé, mais pourquoi personne ne crie au plagiat? Eh bien parce que, aujourd'hui, les maisons de disques ont pour stratégie économique une vaste appropriation des catalogues musicaux de droits d'auteur. Ainsi, si telle popstar est dans telle maison de disques, elle pourra utiliser toutes les mélodies des morceaux que la structure a achetés. Le plagiat est une affaire de sous, on le dit encore. Il n'est porté au tribunal que si un profit est possible. Les artistes ne sont jamais le cœur de l'affaire, seulement des prétextes. Et parlons-en d'ailleurs des artistes. Les droits d'auteur leur apportent peu, encore moins aujourd'hui avec le streaming. On est entré dans un système circulaire dans lequel seuls les gros vendeurs empochent l'argent et bénéficient d'investissements pour continuer à vendre plus. Le droit d'auteur ne sert qu'aux puissants qui ont la capacité de déployer une armada juridique pour protéger chaque centime. Pour montrer à quel point ce système est dégueulasse, on pourrait citer les nombreux artistes qui signent des contrats abusifs en début de carrière. Ils ou elles cèdent leurs droits et deviennent les esclaves de leurs propres conditions. Ainsi, Taylor Swift a démarré un vaste travail de réenregistrement de ses chansons pour pouvoir à nouveau bénéficier de tous ses droits de propriété sur son travail. Le droit d'auteur est un vieux dispositif. Les premiers travaux pour le définir datent du XVIIIe siècle, une époque de développement de l'économie bourgeoise et de la propriété privée. Comme tout le reste de notre modèle, l'Europe a essayé de l'imposer au monde entier. L'idée n'étant pas de rémunérer les peuples auxquels on empruntait des patrimoines musicaux, mais bien de s'assurer qu'ils ne nous voleraient pas dans une stratégie que l'on peut qualifier de colonialisme juridique. Parfois, certains de ces peuples n'ont même pas une définition de la musique comparable à la nôtre. Elle est juste une activité sociale structurée et structurante, comme chez les pygmées Aka en Afrique centrale. Pour continuer à voyager, considérons par exemple les musiciens Lautari, en Roumanie, dont le talent musical se mesure à la capacité d'emprunter aux autres, toujours avec astuce et personnalisation. Pas besoin de droits de propriété, le bon musicien est celui qui joue bien, pas le premier à avoir pissé sur le mur. Sans chercher bien loin dans l'exotisme, on pourrait citer le jazz, dans lequel les thèmes mélodiques s'entremêlent, sont empruntés dans tous les sens, parce que la valeur réelle de la musique réside plus dans sa possibilité même de se transcender. Bach aussi copiait, réutilisait, Stravinsky de même. Les répertoires traditionnels de France sont un vaste pot commun dans lequel chacun peut piocher, comme par exemple les mélodies bretonnes. En fait, le droit d'auteur est une erreur. Une intrusion violente et impérialiste du capitalisme. On fait de l'argent sur une propriété fictive d'un patrimoine immatériel. On cherche à protéger coûte que coûte du vent, du sable, dont la supercherie s'effrite dès les premières contradictions. Alors essayons d'imaginer, un court instant, que l'on abolisse le droit d'auteur. Que l'on refonde le statut du musicien. Un monde dans lequel la musique circulerait librement, où chacun, chacune serait libre de créer avec ce qu'il ou elle veut, de s'inspirer librement, de réaliser la fresque de collage de ses influences. Où tous et toutes pourraient improviser sur le thème de leurs envies. Un monde dans lequel la reconnaissance et la valeur que l'on confère à un artiste seraient pour son talent même. Libérons la musique.
maintenant, on continue notre série de cartes postales. Après Bologne, les supermarchés et les voyages en train, c'est au tour de Thomas de nous raconter son été à Paris.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose.
Il m'écrit. Ah oui, les cartes postales.
Vous êtes bien sur la boîte vocale de RSU. Tous nos fabuleux animateurs sont actuellement occupés. Après le bip, l'appel vous sera facturé un sourire par minute.
Fond de votre message, si vous souhaitez le modifier, faites le yes.
Salut RSU. Je t'écris cette lettre de mon royaume de 25 mètres carrés, de ma cabane sous les toits. Je t'écris cette lettre, tu l'auras compris, depuis mon appartement à deux pas de Bastille. Oui, cette carte postale, elle t'est adressée directement depuis la capitale. Ville lumière, ville de l'amour, mais surtout ville lascive. Sache que depuis de longues années maintenant, je passe tout mon été à Paris.
Paris a sur la terre une influence de centre nerveux. S'il tressaille, on frissonne.
D'abord parce que c'est ma période favorite pour profiter de la capitale, déserte. Ensuite, parce que c'est le moment de l'année le plus intense côté professionnel. Tiens, je te donne un petit aperçu de mon été au boulot avec ces quelques extraits choisis de mon émission de radio.
6h30, toute l'info RMC, Thomas Schnell, bonjour.
À la une, justice est faite pour Britney Spears.
La chaleur qui frappe la Méditerranée demande à tous les pays, en particulier la Chine, de fournir sans délai entre 2 et 3 millions d'euros de bijoux et pierres précieuses dérobés. Et puis le retour de l'équipe de France de football à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Voilà, tu l'as compris, je me régale. Mais saurais-je te narrer le bonheur que c'est de profiter d'une capitale vidée de sa foule ? Le matin, on parcourt à Vélib les vastes avenues baignées de soleil, si désertes que deux paquebots pourraient même s'y croiser. Quand le soleil n'est plus suffisamment filtré à travers les feuilles de platane, eh bien on en profite du soleil attablé à la première terrasse venue. C'est simple, elles sont toutes libres, inutile de réserver ou de faire la queue. Et puis quand la chaleur devient vraiment trop écrasante, là on se réfugie dans un ciné ou bien on va faire du shopping dans une de ces galeries marchandes d'habitude si bondées. Enfin, le soir venu... Première terrasse, un verre, un regard qui se perd, lascif, rapidement soutenu par une belle créature ou un bel âtre. De l'autre côté de la salle du restaurant, une œillade complice, un rapprochement éhonté.
Bonsoir.
Bonsoir.
Quelle chance de se croiser ici.
Et la promesse d'une soirée qui ne fait que commencer. Reste plus qu'à enfourcher la moto et filer à deux jusqu'au bout de la nuit. Rentrer chez soi, ou l'emmener dans un rad, ou dans une boîte, danser en cette moiteur tropicale. Si tu veux tout savoir, RSU, le moment le plus magique, c'est celui où on rentre chez soi à une heure indue, à pied, dans ces rues qui restituent tout le soleil qu'elles ont bu toute la journée. On marche, sans se presser, la nuit nous appartient, les étoiles nous couvrent de leurs scintillements. On ne cherche qu'à se lever au creux de la lumière orangée de la nuit parisienne. Cette fois, on est les rois de la capitale, de l'amour et de la lumière. Parce que c'est ça, Paris, l'été, les yeux fermés, mille et une vies nous attendent à chaque coin de rue. Enfin, ça c'était avant, hein, parce que je sais pas si t'es au courant, mais à Paris cette année, on a annulé l'été. Un temps bien pourri, bien naze, qui dure depuis 2 mois maintenant. Alors je me doute bien que pour tous les petits jeunes de la radio, ça les fait bien marrer de me savoir coincé dans la capitale. Eux, tous rentrés chez papa-maman, partis pour l'été en Corse, à Bologne, à Valence, bref, pas loin de la mer, quoi. Moi, je reste là. Mais il m'avait dit pourtant qu'on se verrait une dernière fois. Il m'avait dit qu'on se dirait au revoir, mais apparemment mes horaires seraient trop contraignantes. Je les appelle trop tôt le matin, ils ne répondent pas. Finalement, c'est moi qui devrais m'arranger.
Oui, c'est bien sûr, évidemment, c'est toujours ma faute.
Du coup, je passe l'été les yeux fermés. Un été de radiophile en somme, puisque la force de la radio c'est ça, susciter l'imagination de l'auditeur par le poids des mots et la force des images. J'adore et je déteste Paris, éternel étudiant, poète maudit dans sa chambre de bonne qui mange des oranges en rêvant de gloire, voyant au loin jaillir le phare de la tour Eiffel. J'ai bon espoir qu'il revienne. La capitale, seule c'est bien, mais le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Quelle belle nuit. On est comme en lévitation, toi et moi. Tiens, mon réveil sonne. Il est déjà l'heure pour moi de partir. Prends soin de toi, RSU, Thomas.
Don't you, baby? My sugar boo. I'm levitating. The Milky Way. We're relegated. Yeah, yeah, yeah.
J'ai envie de dire un bon gros peu cher. Oh, tu nous as émus, tu nous as touchés.
C'était sincère.
Ah, bah oui, bah oui. Ah, là, là, je pense que ça fait partie des situations où tu peux dire peu cher.
Peu cher, peu cher.
On va écouter Remedy de Breakbot, toujours dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Will you ever set me free? C'était Remedy de Breakbot dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Et on continue en musique, mais cette fois d'un autre style.
J'ai longuement hésité sur le sujet de la chronique à faire pour cette émission. Beaucoup d'idées, mais pas de déclic. Comme toute autrice qui se respecte, une profonde introspection pour puiser l'information divine est arrivée. Et là, éclair de génie. Des émotions extrêmes dignes des plus grands soap-opéras, de la démesure et des claques sonores, c'était évident. Gustav Mahler est le sujet parfait. Mais qui est donc ce bonhomme qui a écrit 9 symphonies tout simplement dantesques ? C'est un compositeur autrichien dont la musique est synonyme de grandeur et d'excès. Ses deux grands faits d'armes sont ses leaders, dont le monumental Das Lied von der Erde, le chant de la terre, mais surtout, surtout ses symphonies. Mahler compose en 1888, à 28 ans seulement, la première version de sa première symphonie. C'est déjà un chef d'orchestre connu et reconnu. Mais comme tout artiste qui se respecte, il ne parvient pas à faire jouer son œuvre et, lorsqu'il y parvient, fait scandale. Vulgaire, insensé, défie les lois de la musique. Après plus de remaniements que George Lucas n'en a fait de Star Wars, la symphonie baptisée Titan en 1893 peine à conquérir son public. Mais à force d'acharnement et avec l'évolution des mœurs, mais également des oreilles des auditeurs, elle a su acquérir une renommée, en particulier grâce à son troisième mouvement, dont vous devriez reconnaître le thème principal. Bon, je vois que Pierre a reconnu. Oui, il a repris le thème de Frère Jacques, mais on a fait une marche funèbre. Mais passons à certainement l'une des plus connues, si ce n'est la plus connue, pour sa démesure, la symphonie dite des Mille. Alors, c'est une toute petite chose, c'est près d'1h20 de musique, ce qui est considérable étant donné que le temps moyen d'une symphonie est de 35-40 minutes. Et surtout, c'est par sa nomenclature qu'elle est monstrueuse. 2 chœurs, 1 chœur d'enfant, c'est-à-dire 850 chanteurs, tout simplement. 171 instruments, dont 84 cordes, un piano, un orgue, un harmonium, un instrument entre le piano et l'orgue, 8 solistes, ce qui fait, pour sa création, 1029 musiciens présents sur scène. Arlésienne de la Philharmonie de Paris, peut-être qu'ils arriveront à la faire un jour, elle fut une des rares symphonies accueillies avec enthousiasme par le public, dont voici le final. La troisième symphonie de Mahler est la plus longue qu'il ait écrite. Rien que le premier mouvement est aussi long qu'une symphonie traditionnelle. J'ai découvert cette pièce pas plus tard que le 10 mai dernier. Et quelle claque ! Ça faisait longtemps qu'une telle chose n'était pas arrivée. Traditionnellement, en plus, on n'applaudit pas du tout entre les mouvements. Mais après, un premier mouvement comme celui-là, c'est obligatoire. J'ai été frappée par le nombre de thèmes musicaux qui m'ont rappelé pléthore de musique de film. Si vous avez besoin d'une motivation pour l'écouter, je vous encourage à essayer de trouver quel passage a été repris dans tel film. Allez, testez-vous sur cet extrait. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai pas mis les 4 minutes de gloire consacrées au chant dans la symphonie précédente. Mais ne vous en faites pas, je me rattrape pour ce dernier tour de piste. Tout comme la 3e symphonie, c'est une œuvre phare du répertoire de grands chœurs et en particulier à la Philharmonie de Paris. Intitulée Résurrection, cette pièce possède l'un des finales les plus merveilleux de l'histoire de la musique. Après 4 mouvements tout en tension, les prises de parole des solistes qui emmènent peu à peu à l'arrivée du chœur, frissons et larmes assurées. Il faut voir les chefs en action, leur investissement, leur émotion. C'est tout simplement sublime et j'ai hâte de voir Klaus au travail l'année prochaine. S'il vous plaît, écoutez au moins une fois dans votre vie ce 5e mouvement dans son entièreté, par pitié. Sur l'instant promotion du chœur de l'Orchestre de Paris. Un compte Instagram va être créé, j'ai appris hier au passage, n'hésitez pas à nous suivre. Nous donnons cette 2e symphonie au Festival d'Aix-en-Provence, début juillet, avec Golda Schulz et Marianne Crébassa en soliste, dirigée par Esa-Pekka Salonen et mise en scène par Romeo Castellucci. Mais si vous ne pouvez pas venir ou si vous préférez réécouter la 3e symphonie ou d'autres œuvres, venez, n'hésitez pas. Rendez-vous à la Philharmonie l'année prochaine.
Donc on n'oublie pas, c'est la promotion du chœur de l'Orchestre de Paris avec bientôt un compte.
Moi j'ai reconnu, hein, c'est pas le mec qui a fait la musique de la Ligue des Champions.
Donc continue avec toi Thomas, avec le pavé de culture.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Oui, parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas.
savoir inutile, donc complètement indispensable de Thomas. Chaque mois, tu nous racontes une anecdote méconnue de l'histoire de la Sorbonne. Pour ce 4e épisode, tu nous racontes l'histoire d'une salle qui a vu passer plusieurs fessiers bien célèbres.
Oui, Jean-Paul Sartre, Louis Pasteur, Marie Curie et j'en passe ont bien posé leurs boules sur les bancs de l'amphi qui te chamboule, l'amphi Richelieu. Je sais, cet amphithéâtre pour vous, c'est de bien grands mots. Des mal de dos. Des mal de tête. À force d'essayer de toutes vos forces d'entendre ce que votre professeur raconte dans son micro, mais qui est complètement inaudible dès qu'on dépasse le troisième rang, eh bien vous avez forcément mal au cou parce qu'il y a trop de choses, trop de gens, trop de jolies filles à regarder ceci sur 360 degrés, mais sous sa bonne couche de poussière se cache cet amphi avec beaucoup de secrets. L'amphithéâtre que l'on connaît aujourd'hui date de 1901. Il a été construit par l'architecte Henri-Paul Nénot. C'est lui qui avait remporté le concours d'architecture. Son nom rend hommage, bien sûr, vous l'aurez deviné, au cardinal de Richelieu, qui, une fois devenu proviseur du collège de Sorbonne, c'était en 1622, il avait demandé à son architecte Jacques Lemercier de faire des travaux, d'agrandir l'université qui tombait à l'époque en ruine. Je vous l'ai déjà raconté cette histoire, elle devenait trop étroite. Le plan des nouveaux bâtiments ressemblait à celui qui existe encore aujourd'hui. On a trois bâtiments qui encadrent la cour d'honneur, fermé par la chapelle sur le quatrième côté. Cette construction a été achevée en 1648, après la mort du cardinal de Richelieu, dont vous le savez aussi, puisque le pavé de culture vous l'a appris il y a deux mois maintenant. Le corps de Richelieu repose encore aujourd'hui sous la chapelle. Le tableau de l'amphithéâtre Richelieu, lui, a été marouflé en 1903. Oui, marouflé. Dans le pavé de culture, on vous apprend des mots que vous n'avez jamais entendus. Maroufler, ça veut dire coller une fresque directement sur un mur. Maroufler donc par le peintre Dagnan Bouvray pour la somme de 16 000 francs or. L'architecte Nénot lui en avait fait la commande en 1894. Cette huile sur toile, eh bien, elle s'intitule « Apollon et les muses au sommet du Parnasse ». Elle avait été saluée par la presse de l'époque. Et sachez qu'il y a un escalier secret qui permet d'accéder au comble de l'amphithéâtre, d'accéder à la verrière, et il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'y voit rien dans cet amphi Richelieu, pourquoi l'éclairage est si mauvais, puisqu'il y a un vélum, deuxième mot que vous apprenez pendant cette chronique. Vélum, c'est une étoffe qui permet de dissimuler ou non la lumière. Un vélum permettait autrefois de gérer la luminosité de la pièce, mais celui-ci a été endommagé. Il a donc fallu le fermer et le remplacer de manière définitive par des éclairages afin que la pièce, parfois, puisse être complètement sombre quand un spectacle est organisé en soirée. Petit salut à Olivier Jacquet qui nous permet d'accéder au studio une fois par mois. Merci Olivier. Des lampes ont donc été rajoutées en remplacement de ce vélum, mais elles ne sont pas assez puissantes, ce qui ne facilite pas vraiment les choses quand on doit taper des cours sur nos tablettes. Si l'on met de côté ces quelques points négatifs, il faut le dire, hein, l'endroit est assez impressionnant. On peut y voir la structure du bâtiment quand on est donc dans cet endroit caché, la structure de l'amphithéâtre Richelieu qui rappelle les matériaux utilisés pour la tour Eiffel, oui, puisque toutes les poutres métalliques sont tenues par des rivets qui ne sont une technologie qui n'est plus utilisée aujourd'hui, on préfère les boulons. De nombreuses inscriptions retracent également le passage d'employés, de techniciens. On peut même y retrouver aujourd'hui les anciens panneaux électriques de l'amphithéâtre. Et vous l'aurez remarqué, cet amphithéâtre est plus qu'inconfortable. Wow ! Mais saviez-vous que ceci est purement intentionnel et que ce critère figurait même parmi les demandes faites à son architecte ? Oui, des bancs au dossier très étroit, pas de petite table pour écrire. Tout ceci a été pensé pour empêcher les étudiants de s'affaler sur leur table et de dormir pendant leur cours. Et oui, à la Sorbonne, ça ne rigole pas.
Je suis choquée. Vraiment. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est genre si mal installé dans pas mal des amphis. Et derrière, en plus, sans avoir besoin de s'affaler, on fait nos partiels dans ces amphis-là. Parce qu'en fait, je finis avec des tendines.
C'est un vrai sacerdoce, puisqu'on n'est pas là pour rigoler quand on étudie à la Sorbonne. C'est une école de théologie à l'origine. Hein.
Foucault appellerait ça un système disciplinaire.
On y revient.
Moi, j'ai déjà dormi quand même dans l'amphi Richelieu. Franchement, vous faites les durs. Hein.
Ah, les soirées au 2 bis. Ça, c'est fatal pour le CM du lendemain matin. Hein.
Je peux dire que c'est pas du tout efficace contre le fait de dormir en cours.
Voilà, c'est pas efficace contre le fait de dormir en cours. Et en plus, après les partiels, on a mal au bras, on a mal au dos, on a mal partout. Vraiment, c'est... ils ont pensé nous faire chier, mais en fait, ils nous font supra chier. Bon. Et c'est même pas utile.
Dans le prochain pavé de culture, les meilleures techniques pour dormir en soum-soum pendant les CM.
Merci. Je pense que là, ce sera vraiment utile pour l'ensemble des étudiants de France qui nous écoutent.
J'en doute pas.
Et comme d'hab, après cette émission bien chargée et tous ces souvenirs de situations inconfortables dans les couloirs de l'université, c'est au tour de Nathan, on va passer sous la douche. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est les jeux de mots.
Tu nous parles de quoi ?
Feur.
Sous la douche.
Hello! Oula, t'es heureux ou quoi? Feur? Vraiment, vraiment, t'as pas autre chose à faire? Ou zinc? Fer, zinc, t'as compris, c'était métaux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jour des jeux de mots là? Tu m'énerves? Pourquoi? Ça te prend la tête? Non, 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 à peine, t'imagines. Du coup, c'est des jeux de mots de tête. Tu m'insupportes. Manteau. Arrête. Arrête ça tout de suite ou je te mets dans le coma et je te promets que même Xavier Dupont de Ligonnès ne retrouvera pas ton corps. Après, quand j'y pense, c'est vraiment bizarre. Quoi ? Feur ? Non, 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 je rigole, ok. Non, mais je voulais dire, genre, partiel, impartiel. C'est une partie de quelque chose, ok ? Comment ça ? Bah, c'est partiel, c'est pas entier, quoi. Ok, je te suis pas forcément, mais jusque-là, ça reste logique. Alors, pourquoi tous les derniers examens qu'on passe, ça s'appelle aussi des partiels ? Est-ce que finalement, il y aurait pas un examen final caché, genre un examen de la vie, qu'on nous en parle pas ? Coïncidence ? Je ne crois pas. Eh ben, ce sera pas resté cohérent longtemps. Ou alors, c'est un message subanimal. Subliminal. Ou subliminable pour toi. Ah bah, tu vois, toi aussi tu t'y mets au jeu de mots. Ouais, c'est bien le seul moyen que j'ai de te faire comprendre que c'est moi, la partie du cerveau, qui devrait avoir les commandes. C'est pas très nice, ça. Bon, et ton histoire de message, là, alors ? Bah, regarde, si tu découpes, ça fait par ciel. Ok, alors à défaut d'en avoir, là t'as juste pris une inspiration. Non, non, mais par P-A-R, plus loin, ciel, par le ciel, quoi. Il y aurait pas d'autre moyen de réussir ces examens que de s'en remettre à une entité supérieure. Tu piges ? C'est vrai. Attends, t'es d'accord avec moi, là ? Ah bah, dans ton cas, je vois pas d'autre moyen. Hein. Allez, disparais de ma vue, t'es en retard, là. Ok, tête de tétard ! Hein ? Mais c'est même pas un jeu de mots, ça.
C'est la fin de cet épisode de Cours d'honneur. Merci de l'avoir suivi. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux en passant par la page RSU, Radio Sorbonne Université. Merci à Radio Campus Paris de nous avoir accueillis. C'était Blanche Monin à l'animation, Thomas Schneid à la mise en onde. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas, sur RSU, c'est ta voix qu'on écoute. Salut !
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.